les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans Du bon mot à la satire, premier volet de la série Rire jaune et humour noir, Jonathan Swift donnait de bons conseils aux parents irlandais de son temps, ne pouvant plus nourrir leurs enfants. Il suffisait de les vendre, ces enfants, pour les faire manger par des riches. Dans la deuxième émission de la même série, un chaboté tenait des propos incohérents. Tristram Shandy prenait son temps pour naître, le diable se faisait ferrer chez un forgeron. Pauvre diable. De quel rire, chez quel humain littéraire, allait-il déclencher le rire, jaune ou non, dans le troisième et dernier volet de la série proposé par Arthur Adamoff et Marthe Robert, le 19 avril 1959, sur la chaîne nationale? Voici la réponse.
Dans notre dernière émission, nous avons découvert quelques aspects de l'humour anglais et de l'ironie romantique qui se trouvent harmonieusement réunis dans la personne de Lichtenberg, dont nous avons rappelé le célèbre « couteau sans lame auquel il manque le manche ». S'il convient de s'arrêter sur ce mot, ce n'est pas seulement parce qu'il est une réussite exceptionnelle, mais parce qu'il représente le premier pas vers l'humour moderne, dont nous verrons qu'il est l'exploitation systématique des sentiments de manque, d'absence, d'incomplétude, sentiments qui littérairement prennent une forme tragique ou humoristique selon le point d'où l'on choisit de les observer.
Dès le début du XIXe siècle, l'humour n'est plus regardé comme une sorte de complément nécessaire au délassement de l'esprit. Tragique et humour apparaissent au contraire comme les deux faces inséparables d'une seule et même chose.
Désormais, toutes les grandes œuvres de la littérature universelle seront tragiques par leur humour même. Et humoristiques en ce qu'elles attireront l'esprit vers tout ce qui, dans l'existence individuelle ou collective, est manque ou faille.
La première grande œuvre qui est fondée sur l'utilisation humoristique du manque est incontestablement de Nicolas Gogol.
En un sens, l'assesseur de collège Kovalov est dans la situation de Peter Schmil, l'homme qui a perdu son ombre, à cette différence près que ce que Kovalov a perdu, c'est son nez. Un nez qui non seulement est isolé du reste de sa personne, mais qui reçoit une existence autonome disproportionnée à l'attention qu'on prête à un nez dans la vie quotidienne. L'existence charnelle du nez, qui mène sa vie personnelle, va à ses affaires, intrigue contre son possesseur, matérialise de la façon la plus insolite ce qui manque à un homme pour être vraiment homme, et aussi ce qui le sépare de lui-même. On notera un élément essentiel de l'humour de Gogol qui joue sur l'étonnement ou l'absence d'étonnement. Le héros est effaré pour l'incongruité de ce qui lui arrive, tandis que les autres, témoins de son aventure, ne voient rien là que de très naturel.
Voici la scène où Kovalov se rend dans un bureau d'annonce et promet une forte récompense à qui lui rapportera son nez. Toute cette compagnie assemblée dans une pièce aussi exiguë en rendait l'atmosphère particulièrement lourde. Cependant, le major Kovalov ne s'en trouvait point incommodé. Il tenait son mouchoir sur son visage et d'ailleurs son nez se promenait Dieu sait où.
Permettez, monsieur. Je suis très pressé.
Tout de suite, tout de suite. 2 roubles 43 kopecks.
Monsieur, s'il vous plaît.
Tout de suite. 1 rouble 64 kopecks. Vous désirez?
Je voudrais, monsieur. Voyez-vous, je ne sais s'il s'agit d'une canaillerie ou d'une friponnerie. Je voudrais seulement faire savoir que quiconque me ramènera mon coquin recevra une honnête récompense.
Votre nom, si vous le permettez.
Mon nom? Impossible. Vous comprenez, j'ai beaucoup de connaissances. Madame la conseillère Tchektaryov, Madame Potchine et Pélagie Grigorievna, une veuve d'officier supérieur et sa fille, Les voyez-vous apprenant tout à coup? Que Dieu m'en préserve. Écrivez tout simplement un assesseur de collège. Ou mieux encore, un homme ayant rang de major.
Et le fugitif est l'un de vos serfs?
Un serf. Il s'agit bien de cela. Non. Ah. Le fugitif n'est autre que mon nez.
Vous dites? Quel nom bizarre. Et ce monsieur mon nez vous a emporté une forte somme?
Mais non, vous faites erreur. Mon nez, monsieur, mon propre nez, a pris la poudre d'escampette. C'est le diable sans doute qui m'a joué ce beau tour.
Mais comment diantre cela est-il arrivé? Je ne comprends pas très bien.
Je ne saurais vous le dire. Toujours est-il que ce monsieur roule carrosse et se fait passer pour conseiller d'État. Je vous prie donc d'annoncer que quiconque mettra la main dessus est à me le remettre dans le plus bref délai possible. Voyons, monsieur, je vous le demande. Que puis-je faire sans cet organe apparent? S'il ne s'agissait que d'un orteil, je fourrerais mon pied dans ma botte et personne n'en remarquerait l'absence. Mais vous comprenez, je vais tous les jeudis chez madame la conseillère Tchektaryov, madame Potchine et Pélagie Grigorievna, une veuve d'officier supérieur, et sa fille sont aussi de mes amis. Jugez-en vous-même. Impossible maintenant de me présenter décemment chez elle.
Non. Aucun journal ne voudrait insérer une pareille annonce.
Pourquoi cela?
Parce que cela nuirait à leur réputation. Vous comprenez? Si chacun se met à déclarer que son nez a pris la clé des champs, on reproche déjà aux journaux d'imprimer tant de sornettes...
Ah, permettez, il ne s'agit pas de sornettes.
Vous avez beau dire. Pas plus tard que la semaine dernière, tenez, là où vous êtes, il y avait un fonctionnaire désireux de faire passer une annonce. Oui. Cette annonce qui, je m'en souviens, se montait à 2,73 roubles, signalait la disparition d'un caniche noir.
Oh, écoutez, monsieur...
Rien de plus innocent, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur, vous me croirez si vous voulez. C'était un libelle. Oui. Le caniche désignait le trésorier de je ne sais plus quelle administration.
Mais dans mon annonce à moi, il ne s'agit pas de caniche. Il ne s'agit que de mon propre nez. Comme qui dirait de moi-même.
Non, je vous assure, c'est impossible.
Mais puisque mon nez a réellement disparu...
Alors consultez un médecin. Certains sont, dit-on, fort habiles à poser tous les nez qu'on désire. Est-ce que je vois, monsieur, vous êtes d'humeur gaie? Vous devez aimer les farces de société.
Mais je vous jure que je dis vrai. Si vous ne me croyez pas, je puis vous faire voir.
Inutile. Après tout, si cela ne vous dérange pas... Oh! C'est ma foi vrai. Oh, quelle étrange aventure! La place est lisse et plate, comme une crêpe au sortir de la poêle.
Refuserez-vous encore d'accepter mon annonce? Impossible de rester comme ça, vous le voyez bien. Je vous serai extrêmement reconnaissant. Je me félicite que cette aventure m'ait procuré le plaisir de votre connaissance.
Évidemment, cela peut se faire. Mais, à mon sens, pareille annonce ne vous servira de rien.
Ah non.
Mieux vaudrait soumettre le cas à un habile écrivain. Mm-hmm. Oui. Il le présentera comme un jeu bizarre de la nature et publiera son article dans l'Abeille du Nord. Au grand profit de la jeunesse. Ou simplement à la grande satisfaction des curieux. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Puis-je vous offrir une prise?
Cela calme les maux de tête et dissipe les humeurs noires.
Quoi? Vous avez le front de plaisanter? Vous ne voyez donc pas qu'il me manque justement l'organe avec lequel on prise?
Il va sans dire que Gogol, en écrivant cette histoire, entendait bien faire la satire de son époque. Tous les éléments satiriques habituels y sont. Bureaucratie, bêtises de la presse, portraits de dames de la bonne société, etc. Mais tout comme les auteurs anonymes des histoires que nous avons rapportées dans notre première émission, Gogol désire, au fond, faire éclater un scandale plus grave, celui qui met en jeu l'unité même de la personne, symbolisée par son intégrité physique. Et cette atteinte à l'intégrité physique prête à de nombreuses interprétations, dont Gogol lui-même suggère assez clairement la plus importante.
Privé de son nez, le major Kovalov ne s'inquiète que de l'effet produit par cette absence de nez sur les dames.
L'absence scandaleuse est encore le thème principal de la grande épopée de Gogol, les âmes mortes.
Voulant s'enrichir, le fonctionnaire en retraite Tchitchikov décide d'acheter des âmes mortes, c'est-à-dire des serfs qui, évadés ou décédés, sont restés portés sur les listes gouvernementales de recensement. Propriétaire nominal de ces serfs inexistants, il espère obtenir des banques d'importants crédits et son affaire est presque sur le point de réussir.
Peu importe qu'elle échoue finalement, elle aura été l'occasion d'une grandiose démystification par laquelle non seulement la propriété foncière, mais la vie tout entière se trouveront mises à nu. Le projet de Tchitchikov est parfaitement logique en soi et pourtant incompréhensible pour ceux à qui il est exposé. De plus, Tchitchikov n'est pas un escroc ordinaire. Il ne s'efforce pas de vendre une marchandise imaginaire, mais de l'acheter, ce qui suffit déjà à dérouter la méfiance. En outre, cette marchandise imaginaire n'est pas de nature indifférente. C'est ni plus ni moins de la mort qu'il s'agit. Du seul fait que Tchitchikov s'acharne avec une patience et une persévérance dignes du meilleur homme d'affaires à trafiquer sans danger de la mort, il entre dans un monde insolite, où les situations les plus banales subissent constamment un décalage qui est source de rire, de tragique et de poésie. Les interlocuteurs de Tchitchikov ne sont jamais au fait. Ils ne peuvent faire autrement que d'insérer la proposition trop avantageuse du marchand dans l'ordre normal de leur vie. Certes, ils s'étonnent, mais pas plus qu'ils ne le feraient à propos d'un événement légèrement inhabituel. Ici, comme dans le nez, c'est la qualité et le degré de l'étonnement qui provoque à tout moment des situations humoristiques.
La scène suivante nous montre Tchitchikov au cours d'une de ses nombreuses visites chez les propriétaires dont il veut acheter les âmes. Le voici avec la vieille avare, Korobotchka, dont il réussira provisoirement à vaincre la méfiance.
Bonjour, Batiouchka. Avez-vous bien dormi?
Très bien, Batiouchka. Et vous?
Mauvaise nuit.
Pourquoi donc?
Mal aux reins. Mal aux jambes. L'os au-dessus de la cuisse.
Ça passera, Batiouchka, ça passera. Il ne faut pas y prendre garde.
Ah, oui, fasse le Seigneur que cela passe. Je me frictionne tous les jours, soit avec du lard, soit avec de la térébenthine. Voilà votre thé et un petit verre de liqueur.
Merci. Votre village me paraît important, Batiouchka. Combien d'âmes?
Environ 80, Batiouchka. Mais les récoltes ont été bien mauvaises l'an dernier.
Vos paysans ont pourtant l'air robustes. Permettez-moi de vous demander votre nom de famille.
Korobotchka, secrétaire de collège. Enfin, mon mari était secrétaire de collège.
Ah, très bien. Excusez-moi, j'aurais dû vous poser cette question dès hier soir, mais... Et votre nom patronymique?
Nastasia Petrovna.
Oh, quel joli nom. J'avais une tante, la sœur de ma mère, qui s'appelait également Nastasia Petrovna.
Vous, vous vous appelez Pavel Ivanovitch...
Tchitchikov.
Vous êtes magistrat, n'est-ce pas?
Non, Matouchka, je voyage pour mes affaires, simplement.
Ah, vous êtes un homme d'affaires. Ah ben, moi qui ai vendu du miel à un petit marchand. Bon, presque rien. Vous me l'auriez sûrement acheté à de meilleures conditions, Batouchka.
Non, je n'achète pas de miel.
Autre chose, alors, du chanvre.
Non, Batouchka, je cherche une autre marchandise. Combien avez-vous perdu de paysans ces dernières années?
Oh, beaucoup, Batouchka. 18. Si bons travailleurs. D'autres sont nés depuis, mais ils valent pas grand-chose. Dire qu'il faut payer l'impôt pour toutes les âmes, pour les morts comme pour les vivants. Tenez, la semaine dernière encore, mon forgeron... Mort? Brûlé vif?
Vous avez eu un incendie, Batouchka.
Oh, tu nous en préserves, non? Il a pris feu tout seul, à force de boire. Tout à coup, je l'ai vu entouré de petites flammes bleues. Il est mort, noir comme du charbon. Quel bon forgeron c'était. Serrurier en même temps.
Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, Batouchka. Et pourquoi ne me les donneriez-vous pas, Nastasia Petrovna?
Vous donnez quoi?
Mais vos morts.
Vous donnez mes morts.
Enfin, me les vendre, je vous les paierai.
Je ne comprends pas. Tu veux donc les déterrer?
Mais non, voyons, il s'agit d'un transfert, enfin d'un achat, qui s'effectuera seulement sur le papier. Nous inscrirons les âmes comme si elles étaient encore vivantes.
Mais puisqu'elles sont mortes...
Mais qui dit le contraire? Mais justement, vous payez l'impôt pour des morts. Je vous affranchis de l'impôt. De plus, je vous donne 15 roubles. Vous avez tout à y gagner.
Je ne sais pas, je n'ai jamais vendu d'âme morte.
Je pense bien. Qui vous en aurait acheté? Qui une telle affaire pourrait-elle intéresser?
C'est bien pourquoi j'hésitais. Et puis, elles sont mortes.
Écoutez, Matouchka, vous vous ruinez à payer un impôt pour des morts.
Quel impôt? La semaine dernière, j'ai dû payer 150 roubles. Et encore, si je n'avais pas été aimable avec le fonctionnaire...
Eh bien, grâce à moi, vous n'aurez plus besoin de faire des grâces aux fonctionnaires. Je prends sur moi toutes les charges. Je paierai tout, même les frais de l'acte de vente. D'accord?
Oh, vraiment, Batouchka, je n'ai jamais vendu de mort. J'ai bien cédé des paysans vivants à Protopopov, il y a 3 ans. 2 filles à 100 roubles chacune. Oh, il m'a beaucoup remercié, c'était de bonnes travailleuses.
Mais voyons, quel rapport? Moi, c'est des morts que je parle.
Laisse-moi réfléchir. J'ai peur de vendre trop vite. Mais qui me prouve que tu ne me trompes pas, Batouchka? Ces âmes mortes, elles valent peut-être plus.
Mais elles ne valent absolument rien, puisqu'elles ne servent à rien.
C'est vrai. Elles ne valent rien, elles ne servent à rien. Mais je ne peux pas. Elles sont mortes.
Comprenez-moi. Je vous donne de l'argent. 15 roubles en billets de banque. 15 roubles, ça ne se trouve pas dans la rue. Combien avez-vous vendu votre miel?
12 roubles, poudre.
Vous n'avez pas vendu 12 roubles? Non, vous ne l'avez pas vendu 12 roubles.
Je vous jure que si.
Qu'importe. C'était du miel. Vous avez peiné 1 an pour l'avoir. Vous avez élevé des abeilles. Tandis que les âmes mortes, je ne vous demande aucun effort. Là, vous gagnez 12 roubles pour un travail. Ici, vous en recevez 15 pour rien.
Vous avez peut-être raison. Mais je suis veuve et je manque d'expérience. Je préfère attendre un peu. D'autres marchands viendront peut-être. Je me rendrai mieux compte des prix.
C'est honteux, Matouchka. Honteux. Encore une fois, qui vous achèterait ces âmes mortes?
Une occasion peut toujours se présenter dans les affaires.
Dans quelles affaires se sert-on des morts? Et puisque les squelettes et les tombes vous restent, comprenez-moi bien, le transfert n'a lieu que sur papier. Alors, que décidez-vous? J'attends.
Je préfère vendre du chanvre.
J'ai aucun besoin de chanvre. Le chanvre est une chose, les âmes en sont une autre. Alors, Nastasia Petrovna...
Alors, non, c'est un marché trop bizarre. Ce n'est pas la coutume.
Le diable vous emporte. Oh,
ne me parle pas du diable. Il y a 3 nuits, j'ai encore rêvé de cet être maudit. Hier, j'ai tiré les cartes. Et j'ai compris que Dieu m'avait envoyé ce rêve pour me punir d'une faute que j'ai commise autrefois.
Tu es en train d'en commettre une autre en ne comprenant pas que j'agis par charité chrétienne. Je vois une pauvre veuve dans le besoin qui se tue de fatigue. Je veux la secourir. Et voilà. Que tout le village soit maudit.
Comme tu blasphèmes facilement.
C'est vous qui m'obligez à blasphémer. J'aurais pu vous prendre diverses petites choses. Car je fais aussi des achats pour le fisc.
Pourquoi te fâches-tu comme cela? Si tu ne t'étais pas mis en colère, j'aurais agi tout de suite selon ton désir.
En colère? Pour une affaire pareille, qui ne vaut pas un œuf pourri?
Eh bien, soit. Je conclus pour 15 roubles. Seulement, souviens-toi de moi, Batouchka, quand tu achèteras de la farine de seigle, du gruau, du blé noir et du bétail. Ne me fais pas d'infidélité.
Aucune infidélité, Batouchka.
On ne s'en doute pas tout de suite, mais on le comprend peu à peu. Ce Tchitchikov, qui n'est ni beau, ni laid, ni gros, ni maigre, qui ne paraît pas vieux sans être jeune cependant, ce Tchitchikov se livre tout simplement à une parodie de la rédemption. Son opération commerciale n'est pas autre chose qu'une imitation du rachat spirituel des âmes. Et cette imitation du plus grand par le plus infime fait apparaître l'infinie distance qui sépare l'imitateur de son modèle. Nous allons retrouver dans une œuvre qui n'offre à première vue que peu de ressemblance avec celle de Gogol et qui lui est pourtant étroitement apparentée, dans le Moby Dick d'Herman Melville, le type même de l'épopée tragique niée et renversée par l'humour.
Le capitaine Ahab est un imitateur. Vieux, infirme, impuissant, enveloppé de ténèbres, il a décidé cette folie de régler personnellement ses comptes avec le mal. Un mal insaisissable et ambigu incarné dans Moby Dick, l'énorme baleine blanche.
Achab s'identifie ainsi à l'archange terrassant le dragon, à Jacob luttant avec l'ange, à toutes les figures messianiques qui sont venues sur terre pour exterminer le mal. Son imitation serait parfaitement plausible, car il est vraiment digne d'inspirer la terreur, si seulement il n'était pas marqué par une infirmité qui révèle ses attaches indissolubles avec le mal qu'il entend combattre. L'archange, le vengeur impitoyable en effet, est un pauvre unijambiste qui a dû emprunter au mal lui-même une jambe de rechange, un ersatz de jambe qui rappelle continuellement sa participation intime à la nature de Moby Dick.
C'est avec une jambe en ivoire de baleine que le capitaine, en effet, doit mener sa croisade contre la grande baleine qui le nargue. Voici comment Achab, au cours de sa quête obstinée de Moby Dick, rencontre le capitaine d'une baleinière anglaise qui a lui aussi, quoique à un degré plus humain, un compte à régler avec Moby Dick.
Ainsi criait Achab, hélant une fois de plus un navire portant les couleurs anglaises qui passait par l'arrière. Porte-voix à la bouche, le vieillard se tenait debout dans son canot, hissé à la proue. Sa jambe d'ivoire, nettement visible pour le capitaine étranger, était posée nonchalamment au bout du canot.
Ce capitaine étranger était un bon et bel homme, costaud et basané d'à peu près 60 ans. Il était revêtu d'une spacieuse rotonde de drap bleu de pilote qui se drapait en festons sur sa personne. Une manche vide de sa veste flottait derrière lui comme la manche d'un surtout de hussard.
« As-tu vu la baleine blanche? Vous voyez ça ?»
Il retira des plis qui le cachaient un bras blanc en os de cachalot, terminé par une tête en bois comme un maillet, et il le dressa en l'air.
« Armez mon canot !» « Tenez-vous prêts à mettre à la mer !»
En moins d'une minute, sans qu'il ait eu à quitter sa place, lui et son équipe se trouvèrent sur l'eau et bientôt se rangèrent contre l'étranger. Mais là, une curieuse difficulté se présenta.
Dans l'excitation du moment, Achab avait oublié que, depuis la perte de sa jambe, il n'avait pas mis le pied une seule fois sur un autre vaisseau que le sien et que s'il pouvait se tenir debout, c'était toujours à l'aide d'un merveilleux agencement spécial au Pequod et qui n'aurait pu se trouver sur un autre navire sans disposition préalable.
Or, ce n'est chose commode pour personne, sauf pour ceux qui, comme les baleiniers, le font presque chaque heure, de grimper d'un canot à bord d'un navire en pleine mer. Car les grandes lames portent le canot tantôt jusqu'aux rambardes et tantôt le précipitent brusquement à mi-chemin de la quille.
Ainsi, privé d'une jambe et le navire étranger ne possédant pas la bienfaisante invention, Achab se trouvait maintenant réduit ignominieusement à l'état d'un terrien lourdeau. Il toisait les hauteurs incertaines et changeantes qu'il ne pouvait guère espérer atteindre.
On a peut-être déjà fait allusion au fait que chaque fois qu'il lui arrivait une petite contrariété résultant de son malheureux accident, cela l'irritait et l'exaspérait.
En l'occurrence, ceci fut aggravé par la présence des deux officiers du bateau étranger qui étaient penchés sur le plat-bord près des échelles de taquet, cloués là et qui balançaient une paire de rampes décorées avec goût. Sur le moment, il ne semblait se douter qu'un unijambiste fût trop estropié pour utiliser la rampe marine.
Mais cela ne dura qu'un moment, car le capitaine étranger, ayant jugé l'affaire d'un coup d'œil, s'écria
« Je vois ça! Je vois ce que c'est! Cessez de vous agiter là-bas et lancez la poulie à dépeçage !»
Par chance, ils avaient eu une baleine à leur flanc, un ou deux jours auparavant, et les grandes poulies étaient encore montées. Le massif crochet à graisse, courbe, maintenant sec et net, était encore attaché au bout.
Lentement, il fut descendu vers Achab qui, comprenant aussitôt, glissa sa cuisse unique dans la courbe du crochet, ce qui équivalait à être assis dans la patte d'une ancre ou dans la fourche d'un pommier. Donna le signal, s'agrippa fermement tout en aidant la manœuvre, en tirant main sur main une des parties courantes de la poulie. Il fut bientôt hissé soigneusement à l'intérieur de la haute rambarde et doucement déposé sur la tête du cabestan.
Son bras d'ivoire franchement tendu en signe de bienvenue, l'autre capitaine s'avança et Achab, tendant sa jambe d'ivoire en la croisant avec le bras d'ivoire, comme deux lances d'Espadon, s'écria à sa manière marsouine
« Oui, oui, de grand cœur, croisons nos os. Un bras et une jambe. Un bras qui ne peut jamais se dérober et une jambe qui ne peut jamais se sauver. Où avez-vous vu la baleine blanche? Et il y a combien de temps?
La baleine blanche?
Oui, je l'ai vue là, sur une ligne, la saison dernière. Et elle a enlevé ce bras, hein?
Oui, tout au moins elle en fut cause. Et cette jambe aussi.
Racontez-moi comment ça s'est passé.
C'était la première fois de ma vie que je croisais sur la ligne. À ce moment-là, j'ignorais l'existence de la baleine blanche.
Ah!
Eh bien, un jour, nous mîmes les canots à la mer pour un banc de 4 ou 5 baleines. Et mon canot s'attacha à l'une d'elles. C'était un vrai cheval de cirque. Elle tournait comme un moulin. Tant et si bien que mon équipage avait toutes les peines du monde à l'empêcher de nous faire chavirer en se tenant ferme au plat bord arrière. Alors, du fond de la mer, surgit une baleine énorme avec une tête et une bosse blanche comme le lait. Et toute couverte de pattes d'oie et de riz.
C'était elle! C'était elle!
Des harpons étaient plantés dans sa nageoire tribord.
Oui, oui, mais elle est bien! Mais faire! Mais continuez! Mais
laissez-moi vous dire!
Oui.
Eh bien, ce vieil aïeul à tête et à bosse blanche se précipita, tout couvert d'écume, droit dans le banc! Et commença de happer furieusement ma ligne attachée.
Oui, 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 je vois, je vois. Elle voulait la couper, libérer la bête attachée. Un de ces vieux trucs. Mais je la connais. Oh, je la connais.
Les comptes à régler avec la race des baleines ne sont pas seulement d'ordre éthique. Il y a encore à régler le grand compte de la connaissance, qui est toujours en suspens. Car la baleine est insaisissable, ambiguë, comme l'absolu dont elle est l'image. Impossible de rien savoir sur elle de précis, d'incontestable et de définitif, mais impossible en même temps de renoncer à savoir. Pour faire éclater la distance entre le désir et l'impossibilité, l'auteur du récit emploie une fois de plus l'imitation. À l'instar du savant qui dresse le bilan de son savoir, il fait l'inventaire de ses connaissances, mais ce qui apparaît par là, c'est l'insuffisance, le caractère douteux et fragile de ce qu'il sait. Ici, l'humour est en raison directe du sérieux avec lequel il procède.
C'est une vue générale et systématique de la baleine, sous sa forme la plus large, que je désire maintenant vous offrir. Ce n'est point là une tâche facile. Nous allons tenter la classification des parties constituantes d'un chaos, rien de moins. Écoutez donc ce que les meilleures compétences en ont dit. Aucune branche de la zoologie n'est aussi compliquée que celle qu'on nomme cétologie. Dit le capitaine Scoresby, AD 1820. Je n'ai pas l'intention, quand bien même ce serait en mon pouvoir, d'entamer une enquête quant à la vraie manière de diviser les cétacés par groupes et par familles. La confusion la plus complète règne parmi les historiens de cet animal, le cachalot, dit Sir John Bill, AD 1839. Incapacité de poursuivre nos recherches dans les eaux insondables. Voilà impénétrable qui couvre notre connaissance des cétacés. Un champ couvert d'épines. Toutes ces indications incomplètes ne servent qu'à nous troubler, nous autres naturalistes. C'est en ces termes que parlent de la baleine le grand Cuvier, John Hunter et Lesson, ces lumières de la zoologie et de l'anatomie. Néanmoins, si nous n'avons que peu de connaissances, les livres ne nous manquent pas. Et il en va de même pour la cétologie ou science des baleines. Ils sont nombreux, ceux qui, petits ou grands, anciens et nouveaux, terriens et marins, ont écrit peu ou prou sur la baleine. Voici une liste de quelques-uns d'entre eux. Les auteurs de la Bible, Aristote, Pline, Aldrovandi, Sir Thomas Browne, Gesner, Ray, Linné, Rondelessius, Willock Bay, Grinartedi, Sibald, Brisson, Martin, Lacépède, Bonterre, Desparet, Baron Cuvier, Frédéric Cuvier, John Hunter, Owen, Scoresby, Bill, Bennett, J. Ross, Brown, l'auteur de Miriam Coffin, Homestead et le révérend T. Cheever. Mais à quelle fin de généralisation tout ceci ont-ils écrit? Les extraits précités le montrent. Parmi les noms d'auteurs, seuls ceux qui suivent Owen ont vu la baleine vivante, et l'un d'entre eux fut un vrai harponneur et chasseur professionnel. C'est le capitaine Scoresby. En ce qui concerne la baleine du Groenland, dite « vraie baleine », il est la meilleure autorité existante, mais il ne savait rien et n'a rien dit du grand cachalot. La baleine du Groenland n'existant pas auprès de ce dernier, qu'il soit dit ici en passant qu'elle est une usurpatrice du trône des mers. Elle n'est pas le moins du monde la plus grande des baleines. Néanmoins, grâce à la priorité de sa connaissance et à l'ignorance profonde dans laquelle, jusqu'à il y a environ 70 ans, on était au sujet du cachalot fabuleux et ignoré, laquelle ignorance a persisté, sauf dans quelques retraites scientifiques et dans quelques ports baleiniers, grâce à cela, dis-je, son usurpation a été complète de toute manière. Tout ce qui est allusion léviathanesque chez les grands poètes du passé vous convainc que, pour eux, la baleine du Groenland était la reine sans rivale de l'océan. Mais le moment est enfin venu d'une nouvelle proclamation à Charing Cross. Oyez, bon peuple, la baleine du Groenland est déposée. Le grand cachalot règne désormais à sa place.
C'était Rire jaune et humour noir par Arthur Adamoff et Marthe Robert. Troisième et dernier volet de la série, le jeu du tout et de la partie. Jean Negroni, Pascal Mazzotti, Arlette Thomas, Jean-Jacques Aslanian, Jean-Pierre Lituac et Ève Grilliquez lisaient des extraits des âmes mortes de Gogol et de Moby Dick d'Herman Melville. Première diffusion sur la chaîne nationale le 19 avril 1959. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des Nuits de France Culture, ainsi que les deux premiers volets de la série.
C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se coinfrer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne. Faut que les mandataires au hall puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne. Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne. Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comme ac. Faut que ça saigne bien fort. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève, et toujours la vie est brève. Ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne.